Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, femmes et carrière. Le monde change, les mentalités évoluent et pourtant le sujet demeure inépuisable. Les femmes sont maintenant plus diplômées que les hommes dans les pays développés et pourtant leur carrière continue de se heurter à ce qu'on appelle un plafond de verre. Aucune femme en France par exemple ne dirige une entreprise du CAC 40. Alors nous allons en discuter avec nos invités. Claire Léost, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômée d'HEC, grande école de commerce, vous publiez un récit assez rageur, il faut bien le dire, Le rêve brisé des working girls, comment éviter les pièges. Monique Meuron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes statisticienne à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, et vous êtes l'auteur, avec une sociologue, d'un siècle de travail des femmes en France. Alors là, de toutes les femmes et pas seulement des très diplômées. Hein.
Oui, c'est un panorama.
Les agricultrices, les femmes ouvrières.
Voilà, on a vu l'évolution du travail des femmes pendant un siècle.
Et puis nous serons également en ligne avec Solange Rigon, qui est journaliste au Journal des Femmes et qui vient de publier une enquête sur la grossesse et le travail. Beaucoup de questions donc à aborder pendant cette émission. Faut-il par exemple négocier d'arrache-pied son premier salaire quand on est une femme? Comment vivre sa grossesse au bureau? Faut-il être belle pour réussir? Le travail à temps partiel est-il un piège ou une solution pour concilier famille et carrière? On attend bien sûr vos témoignages, les voisines. Mesdames, je vais être honnête, on vous lit souvent, mais on vous entend très très peu à l'antenne. Alors pourquoi? Alors que vos appels sont anonymes, je le rappelle, et que vous êtes nombreuses à exercer des métiers à responsabilité. Un petit effort, on vous rappelle tout de suite le numéro de téléphone.
7 milliards de voisins, c'est l'émission pour tous, pour les voisines et les voisins.
Tout le monde est voisin.
Les voisins, les voisines, j'ai un numéro de téléphone pour vous.
33 1 84 22 71 71.
On vous attend.
Quelques messages glanés sur le fil Facebook d'ailleurs. J'en profite pour vous signaler qu'on a passé la barre des 15 000 fans. Bravo à vous tous. Alors les voisins se lâchent sur le sujet des femmes et des carrières et peu de femmes pour leur répondre pour le moment. Que font les voisines? Djibrila, allez, on commence direct. Une femme au travail ici au Mali, c'est une véritable calamité. Elle fait mille et une choses à la fois. Des conversations incessantes entre consoeurs qui n'ont aucun rapport avec leur boulot. Tantôt elle parle des projets de fête pour les mariages, baptême, bref, de leur sempiternelle cérémonie. Voilà pourquoi elles sont lentes dans leur boulot. Décidément, le niveau d'études ne change rien dans le comportement d'une femme. Voilà. Et après, ce sont les mêmes voisins, j'en profite pour le signaler, qui se plaignent de la déliquescence de la société et des traditions. Paco, au Sénégal, une femme qui a le courage de faire de longues études est assurée pratiquement à 80% d'avoir un emploi très bien rémunéré. Babacar, à Dakar, ajoute, les femmes qui ont la chance de faire des études ne sont pas solidaires. Elles jouent un rôle d'homme et ne soutiennent jamais les autres femmes. Une fois en haut de l'échelle, elles se contentent de faire le jeu des hommes. Ça, peut-être vrai aussi en France, Claire Léost?
Alors ça, non, moi je ne l'ai pas tellement observé, en fait, cette idée qu'il y aurait une absence de solidarité des femmes quand elles arrivent
ouais, mais au sommet de la pyramide. Avoir une femme pour boss, c'est pas forcément un avantage, au dire de vos consoeurs?
Non, je pense que moi je raisonne pas comme ça en fait. Je raisonne pas en tant que homme ou femme parce que je pense qu'il y a pas de management féminin versus un management masculin.
Ouais,
je pense
qu'il y a, ça dépend des personnalités.
Il y a des individualités, voilà. Je pense que ça aide pas forcément les femmes de dire qu'il y a un management féminin avec des valeurs féminines. Je pense que ça peut être dangereux pour
Rico nous dit les femmes haïtiennes en grande majorité deviennent méprisantes et ne respectent pas l'autre sexe quand elles réussissent. Ou encore Fabiola nous écrit ceci: le défaut des femmes africaines, c'est que lorsqu'elles obtiennent de bons postes et de gros salaires, certaines deviennent insupportables de caractère, hautaines, voire même grossières. C'est mon constat. Ou encore Bikienga qui nous dit au Burkina Faso, la plupart des femmes qui sont des cadres n'ont pas l'art du respect du conjoint. T'as l'impression que le mari joue toujours le second rôle. Il n'a même pas le droit de contredire sa femme. Voilà, totalement scandalisé cet internaute. Et puis alors une voisine qui arrive quand même sur le fil Facebook, Babette à Abidjan. Je lis tous les commentaires et certains me font rire. Quand on élabore les fiches de poste, à ce que je sache, on ne fait aucune distinction entre l'homme et la femme. On leur demande à poste égal le même résultat, sinon plus aux femmes. Alors, nous sommes en droit de réclamer le même salaire, écrit Babette. En plus, quand madame rentre, elle doit te cuisiner ton plat quand tu es vautré dans ton canapé. Et Mamadou répond, même à diplôme égal, la femme ne peut exercer de façon aussi efficace qu'un homme. Cela ne doit pas susciter l'interrogatoire parce que c'est un fait naturel. Réponse de Babette, là ça se corse. Hein. Gouja, franchement tu es un préhistorique. Au passage on dit interrogation. Bien à toi, 3 points d'exclamation. Allez, on vous rappelle le numéro 33 84 22 71 71. C'est le numéro du standard, c'est ouvert. Allez-y, appelez maintenant les voisines et les voisins. Claire Léost, vous avez donc rassemblé dans votre livre Le rêve brisé des Working Girls 10 témoignages plutôt amers de femmes très diplômées, diplômées d'HEC, donc grande école de commerce en France. En fait, vous vous étiez perdue de vue, plus ou moins, vous vous êtes retrouvée quelques années après, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On ne s'était pas vu depuis le diplôme. On s'est retrouvées une quinzaine d'années après. Et moi, ce qui m'a vraiment frappée, et c'est l'origine du livre, c'est de voir que ces filles qui étaient ultra diplômées, ultra brillantes, et qui étaient promises à des carrières brillantes, puisqu'à HEC, on était 46% de filles pour 54% de garçons. Oui, donc bon, pour nous, les questions
de... Il n'y a pas de problème de parité.
Voilà, hein. Tout ça, c'était réglé, c'était derrière nous, donc on aurait dû logiquement avoir les mêmes postes que les garçons. Or, 15 ans plus tard, on se rend compte que les garçons, ils ont tous progressé dans la hiérarchie, certains ont créé des boîtes, les ont revendues, ils se sont tous très bien débrouillés. En revanche, pour les filles, ça a été beaucoup plus compliqué, puisque les plus chanceuses, elles ont certes des postes à responsabilité, mais avec des salaires de 30% inférieurs à ceux des garçons à poste équivalent.
Donc là, c'est un écart de salaire qui est bien plus important qu'à l'échelle nationale.
Tout à fait. Chez les cadres supérieurs, c'est 30%.
C'est pas tellement plus important, c'est très important, mais c'est important aussi en moyenne, hein, on est autour de 20%. Enfin, il y a des problèmes de mesure, ça dépend là, si on tient compte ou non du temps partiel, etc. Mais quand même, c'est l'écart de salaire entre hommes et femmes reste quelque chose d'important et qui demeure.
Et ces femmes à HEC, en plus, vous dites, elles étaient plutôt plus brillantes que les hommes. Excellentes notes, elles ont toutes d'autres diplômes, d'autres grandes écoles à leur actif dans leur CV.
Oui, tout à fait. En fait, et ça, c'est le problème des filles en général, c'est qu'à l'école, elles réussissent brillamment, elles réussissent mieux que les garçons, elles ont plus de diplômes. Mais le problème, c'est qu'elles sont élevées selon un système méritocratique, donc ça, c'est-à-dire, je travaille bien, donc je suis récompensée, j'ai des bonnes notes. Sauf que l'entreprise, ça fonctionne pas du tout comme ça, ça fonctionne à l'envers. Donc si vous travaillez très bien dans une entreprise, mais que vous attendez d'être récompensé, la récompense, elle vient pas. Si vous restez dans votre coin à attendre qu'on vous récompense, qu'on vous augmente, ça vient pas.
Ceci dit, c'est quand même grâce au diplôme et grâce au fait que les femmes sont plus diplômées qu'un certain nombre de choses ont changé. Si on regarde sur les dernières décennies, on a toujours des bastions, masculins et féminins. Il y a très peu de femmes sur les chantiers, il y a très peu d'hommes auprès des jeunes enfants et qui font le ménage ou des choses comme ça chez les particuliers. Mais ça change, ça a quand même beaucoup changé. En général, dans les professions les plus diplômées, qui aurait imaginé il y a 30 ou 40 ans que les jeunes médecins, les jeunes avocats, les jeunes juges sont maintenant majoritairement des femmes.
Les filles sont plus nombreuses en médecine, en fac de médecine.
Oui, tout à fait, et même maintenant parmi les jeunes médecins. Alors, il demeure des très grosses différences de spécialité. Les chirurgiens sont des hommes, les pédiatres sont des femmes.
Oui, parce que ce sont aussi des métiers qui se sont dévalorisés avec l'arrivée des femmes.
C'est-à-dire pas tellement.
Notamment le médecin généraliste, qui était quand même un statut très envié il y a quelques décennies. Aujourd'hui, le médecin généraliste, c'est quelqu'un
Oui, mais ça, c'est pas à cause de l'arrivée des femmes. Et les femmes se font payer le même prix quand elles sont généralistes que les hommes. Oui. Donc, il y a aussi une part d'idées toutes faites. D'ailleurs, dans le témoignage que vous avez donné, c'est très intéressant parce qu'il y a, l'évocation du naturel, des choses, et puis des choses qui font que on n'a pas l'habitude de voir une femme manager, de voir une femme cadre supérieur et qu'on lui projette un certain nombre de choses qui, chez un homme, ne paraît tout à fait normal. Ouais. Le fait de jouer la concurrence, ça paraît.
Alors, tout de même, à ce niveau de diplôme-là, les filles que vous décrivez, dont vous racontez le parcours, donc bardées de diplômes, on se dit à ce niveau-là, le sexe ne joue plus. D'être une fille ou un garçon, ce qui compte, c'est le CV. Alors, que se passe-t-il dans la tête des recruteurs pour que, vous rappelez ce chiffre, les filles diplômées des grandes écoles étaient embauchées avec des salaires de 15% de moins que les garçons, voire plus, et puis surtout deux fois plus souvent recrutées en CDD que les garçons, en contrat à durée déterminée. On se demande bien pourquoi.
En fait, ça commence dès la sortie de l'école. Le problème, c'est que les filles sont déjà tellement contentes qu'on leur propose un job qu'elles vont pas en plus négocier leur salaire.
Attendez, elles savent quand même que c'est le tapis rouge à la sortie d'une grande école.
Même les plus diplômées, en fait, ont toujours cette idée que elles sont pas légitimes, que c'est une chance qu'on leur offre un travail.
C'est complètement dans l'inconscient, ça.
Complètement.
C'est pas le discours qu'elles tiennent officiellement.
C'est complètement lié à l'éducation, et ça, quel que soit le niveau d'études des filles, vous retrouvez cette idée qu'on n'ose pas parler d'argent, donc on ne demande pas quand on négocie son premier poste, on oublie de parler d'argent. Et je connais beaucoup de filles qui ont signé le contrat sans même regarder combien il y avait
filles,
sur le contrat.
Il y a un petit côté
culture.
Il y a un petit côté quoi, c'est vulgaire, c'est ça.
C'est ça. C'est.
Je pense que il y a des sociologues comme Christian Baudelot par exemple qui ont montré que les femmes et les hommes sur le marché du travail n'ont pas les mêmes références. Les hommes vont se référer à se comparer à leur père et à leurs collègues masculins. Donc ils vont être beaucoup plus dans la concurrence ou dans la comparaison. Alors que les femmes, elles vont se comparer à leur mère. Et déjà, pour beaucoup d'entre elles vont être contentes d'avoir un salaire, d'avoir un emploi, alors que la majorité des femmes de la génération précédente n'avaient pas cette autonomie. Donc elles vont être statistiquement, toutes choses égales par ailleurs, plus satisfaites que les hommes. C'est-à-dire elles vont moins revendiquer. En plus, elles sont souvent dans des métiers où on revendique moins, des métiers plus tertiaires.
Mais tout de même, Monique Meron, vous vous placez vraiment avec un point de vue historique de la statistique. Vous expliquez bien que les femmes sont arrivées maintenant depuis assez longtemps sur le marché du travail, massivement, par rapport aux années 60.
Oui, mais ça s'est fait en quelques décennies. Quelques décennies, c'est très court.
Finalement, c'est très court.
C'est très court par rapport au temps. Effectivement, regardez...
Parce qu'aujourd'hui, on a quoi ? On a 85% des femmes qui travaillent.
Alors, 85% des femmes de même en âge d'avoir des enfants qui effectivement travaillent.
Ouais, contre 40% dans les années 60.
Voilà.
Donc la mère au foyer était majoritaire.
Voilà. Alors c'était pas forcément exactement compté pareil, mais bon, oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est le salariat qui a fait que le travail des femmes est devenu visible.
Et malgré tout, les mentalités ne vont pas aussi vite que, finalement, la démographie.
C'est-à-dire que la référence n'est pas la même. Quand vous êtes un homme, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, il a travaillé de la même façon. Il a été... Alors que les femmes, leur mère, leur grand-mère, peut-être certaines ont travaillé, mais pas de la même façon. Et elles n'étaient pas payées pareil, en plus. Au début du siècle, les femmes étaient payées deux fois moins que les hommes pour le même...
Alors, est-ce que les guerres, est-ce que les crises économiques ont une incidence aussi sur le travail des femmes en France? On va le voir. Et puis surtout, quel conseil pour une femme qui veut faire carrière? Vous commencez par ce conseil élémentaire, Claire Léost, bien choisir son conjoint. On va y revenir, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Ça, ding ding, elle vient de Mongolie. Nous sommes bien chez 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons des carrières, des plafonds de verre, des salaires pour les femmes et puis des relations avec les hommes dans le monde du travail. Et justement, Monique Meron, les guerres, les crises, alors là, bon, on peut revenir jusqu'aux guerres précédentes, la Deuxième Guerre mondiale, mais et les crises économiques et également, quelles incidences sur finalement en masse la place des femmes dans le monde du travail, dans l'économie?
les guerres, les crises, c'est pas pareil. Hein. Les guerres, effectivement, pendant que les hommes ne sont plus là, les femmes sont appelées sur le marché du travail et deviennent visibles. Leur travail devient visible. Après, quand les hommes reviennent, quand il y a des vagues d'immigration qui compensent le manque d'hommes, après les guerres, sur peu de temps, finalement, 10 ans, 15 ans, on revient dans la tendance précédente. C'est-à-dire que les femmes reviennent dans l'invisibilité ou à la maison. Les crises, c'est un peu différent. Les crises actuelles, elles touchent les hommes et les femmes de façon différente parce que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes emplois. Les hommes sont plutôt, plus souvent, enfin plus nombreux dans l'industrie, donc ils sont directement touchés par les crises économiques et brutalement. C'est-à-dire ce sont les licenciements, donc déjà, c'est brutal. Les femmes étant dans le tertiaire, ces métiers-là sont moins vite touchés par la crise, ils sont touchés un peu après, donc c'est ensuite qu'elles se retrouvent au chômage ou, comme elles sont à temps partiel, peut-être à temps encore plus partiel. Donc ce sont des choses qui se voient moins vite.
Et puis, elles sont touchées très récemment, ça y est, on a la première génération pratiquement de chômeurs qui sont davantage des hommes que des femmes. C'est assez récent, ça.
Alors, en fait, ça s'est rejoint. Ça se recroise dans l'autre sens, etc. Donc c'est pas quelque chose de stable, mais c'est vrai que dans plusieurs pays, notamment européens, on a des statistiques tout à fait comparables. Un certain nombre de taux de chômage féminin de taux de chômage masculin ont dépassé taux de chômage féminin. Pardon.
Alors, Claire Léost, vous dites dans votre livre finalement, pour ces femmes très diplômées dont vous racontez les parcours, le plus gros obstacle à la carrière d'une femme, c'est le salaire du conjoint.
Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que ces femmes qui sortent de grandes écoles, elles épousent souvent des garçons qui sont dans le même milieu qu'elles. Mmh. Donc des garçons avec des ambitions de carrière aussi importantes.
Mais comme elles veulent tout réussir, elles veulent faire un beau mariage.
Absolument, absolument. Et donc se pose le problème de la double carrière, c'est-à-dire de faire conjointement une carrière, l'homme et la femme. Et en fait, ça c'est possible jusqu'au moment où les enfants arrivent. Mais quand les enfants arrivent, il y en a forcément un des deux qui doit se mettre en retrait pour aller chercher les enfants chez la nounou, pour s'en occuper. Et en général, c'est la femme, parce que c'est elle qui a le salaire le moins important, puisque ça commence dès la sortie de l'école, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, effectivement, les filles qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont choisi des conjoints profs ou fonctionnaires, ou avec des salaires finalement inférieurs, parce que celles-là, finalement, elles n'ont pas le choix, elles font bouillir la marmite, donc elles ne se posent pas du tout la question de ralentir... parce qu'elles sont chefs de famille.
Ça veut dire qu'autour de vous, vous avez beaucoup de collègues qui ont complètement, malgré leur diplôme incroyable, qui ont mis entre parenthèses complètement leur carrière.
Complètement, c'est-à-dire
au profit de leur mari.
Alors sur les 10 femmes que j'ai interrogées, il y en a la moitié quand même qui se bat pour avoir les mêmes postes que les hommes, mais avec des salaires inférieurs comme on l'a vu. L'autre moitié, alors soit elle a complètement décroché, c'est-à-dire qu'il y en a effectivement qui ont suivi des conjoints à l'étranger, à Londres, aux États-Unis. Donc celles-là, elles sont au foyer, elles ont complètement décroché. Et il y en a d'autres qui ont arrêté de travailler, qui se disent qu'elles vont peut-être reprendre, qui sont entre deux postes, mais qui finalement n'ont pas du tout les carrières qu'elles devraient
avoir. Mais vous partez du fait que forcément elles sont malheureuses. Elles vous ont toutes dit qu'elles ressentaient une certaine amertume.
Alors en fait, moi je me suis pas posé la question de savoir si elles étaient heureuses ou pas, parce que c'était pas mon sujet. En fait, moi je suis partie du potentiel qu'elles avaient et de ce qu'elles en avaient fait. Parce que c'est vrai que certaines m'ont dit, mais oui, mais c'est un choix, c'est mon choix. Mais cette idée de choix, moi j'y crois pas tellement, parce que si c'était un choix, ça serait réparti harmonieusement entre les garçons et les filles. Il y aurait autant.
Ça remet en cause en fait les critères de choix de promotion, les critères appliqués dans les entreprises pour la promotion, c'est-à-dire que le critère de disponibilité, de grande disponibilité, de mobilité, etc. Ce sont des choses mises en avant et qui sont préjudiciables aux femmes en général.
Alors il y a une des femmes que vous interrogez, Claire Léost, qui dit bah, en fait le plus important c'est de bien choisir son conjoint. Alors, bien choisir son conjoint, c'est quoi en quelques mots? À part finalement peut-être un homme qui a du temps, qui est prof, etc. Mais dans sa mentalité.
En fait, ça veut dire que bien avant que les enfants arrivent, puisqu'en général, quand on choisit son conjoint, on n'a pas encore d'enfant, il faut vraiment négocier pied à pied la répartition des tâches ménagères, du soin lié à l'enfant. Il faut se poser ces questions très en amont, parce que si on ne se les pose pas en amont, quand les enfants arrivent, finalement, vous êtes rattrapés et c'est à vous de tout gérer.
Et plus fondamentalement, il y a une des filles qui dit bien choisir son conjoint, c'est choisir un homme qui croit en vous, voire plus que vous-même.
Tout à fait. C'est-à-dire, oui.
Vous restez avec nous, hein, Claire Léost et puis Monique Méron. Suite de l'émission, juste après le flash, les femmes, leur carrière, leur plafond de verre. Comment concilier travail, maternité, gérer sa grossesse au bureau, ou plutôt gérer le regard de ses supérieurs. Ce serait vraiment formidable si vous décrochiez votre téléphone, les voisines, surtout si vous êtes dans les embouteillages. Un seul numéro de téléphone à composer qui est sûrement enregistré dans votre mobile. 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins. Retour dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant sur RFI, bien sûr.
sélection du mois.
Sébastien Tellier. Zepta.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 10h30 en temps universel, midi et demi à Paris et Barcelone.
Marine de la Moissonnière.
Bonjour, on fait le tour de l'actualité en 3 minutes. Et tout d'abord, l'Ukraine. Des combats ont lieu en ce moment même dans les rues du centre-ville de Lugansk. L'armée ukrainienne a déjà repris le contrôle d'un quartier. Hier, le président Petro Poroshenko a annoncé que la stratégie militaire allait être modifiée pour être plus efficace. À Makivka, à 16 km de Donetsk, l'autre bastion séparatiste de l'Est, 3 civils sont morts dans des bombardements en fin de matinée. Sur le plan diplomatique, après l'échec de la réunion de Berlin hier, Angela Merkel se rendra à Kiev ce samedi. Elle rencontrera le chef de l'État. Plus que quelques heures avant la fin du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la nouvelle trêve prendra fin ce soir à minuit, heure locale. Les discussions indirectes entre Palestiniens et Israéliens se poursuivent au Caire. L'Égypte a proposé un cessez-le-feu en 2 parties, des premières mesures immédiates avant des négociations sur le fond d'ici 1 mois. Après le barrage de Mossoul hier, les forces irakiennes se lancent à l'assaut de Tikrit, ville située à 150 km au nord de Bagdad et ancien fief de Saddam Hussein. L'armée continue son offensive contre les combattants de l'État islamique avec le soutien aérien des Américains. Barack Obama a prévenu hier, les États-Unis vont poursuivre une stratégie de long terme en Irak. Nouvelle nuit de chaos dans la ville de Ferguson aux États-Unis. La colère des habitants ne se calme pas après la mort de Michael Brown, un jeune noir abattu par un policier alors qu'il n'était pas armé. Les forces de l'ordre ont essuyé des tirs nourris hier et ont riposté avec du gaz lacrymogène. 2 personnes ont été blessées par balle. Le bilan de l'épidémie d'Ebola à nouveau revu à la hausse. 1229 morts et 2240 cas recensés depuis le début de l'année par l'OMS. Le Cameroun a fermé toutes ses frontières avec le Nigeria pour empêcher la propagation du virus. Frontières terrestres, maritimes et aériennes. En France, l'autopsie du petit garçon mort dans une colonie de vacances en Ariège début juillet n'a pas permis d'établir l'origine du décès. Cet enfant de 8 ans avait été transporté à l'hôpital après avoir été pris de violentes diarrhées. Des analyses avaient mis hors de cause l'eau et la nourriture. La justice a ordonné une nouvelle expertise. Un mot de sport, les championnats d'Europe de natation en bassin à Berlin ont très bien commencé pour la France. Médaille d'or hier sur 4 fois 100 mètres. Nouvelle chance de médaille pour les Bleus aujourd'hui avec Florent Manodou sur 50 mètres papillon.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, deuxième partie sur RFI, les femmes, leur carrière, leur plafond de verre. Nous sommes en compagnie de Monique Meuron qui publie Un siècle de travail des femmes en France et Claire Léost qui publie Le rêve brisé des working girls. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On parlait juste avant le flash de l'importance de bien choisir son conjoint, un conjoint qui accorde autant d'importance à la carrière de sa femme qu'à la sienne, et puis un conjoint si possible qui peut aussi se libérer tout autant que son épouse pour assumer les charges du foyer. Nous sommes en ligne avec une voisine qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Zita.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Zita. Nous vous écoutons
et
Zita.
Bonjour Emmanuel.
Oui, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne.
Ok Emmanuel, bonjour les voisines, bonjour les voisins. C'est pour confirmer ce que vous venez de dire, il faut considérer les deux. Et tout ça, là, dépend des couples, de chaque couple. Ce qui, en fait, me concerne, ça se passe très bien au niveau de mon ménage et au niveau de mon service, de mon travail. On arrive à continuer les deux.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Zita?
Je suis assistante de direction. Je travaille avec dans une boîte. On sort pas tôt, mais quand je suis sortie tôt, j'appelle mon mari. Tu es déjà sorti, tu peux aller à la maison, tu fais des enfants avant que je m'arrive, vice versa. Si je sors tôt, je prends le rôle. S'il sort tôt, il le fait aussi. Donc ça dépend de chaque couple.
C'est ça. Mais alors, ce partage des rôles, c'est un partage qui se décide au jour le jour en fonction de l'emploi du temps de chacun, de vous, de votre mari, parce que j'imagine que votre mari a aussi un emploi assez prenant, non?
Oui, il a aussi un emploi, mais c'est quand je suis coincée, je l'appelle, toi tu es un peu passé à la maison, s'occuper des enfants, en attendant que j'arrive, oui, faire ça, si je finis tôt, je le fais. Si je finis tôt, il le fait.
Et vous avez le sentiment que c'est assez rare autour de vous, que vous êtes très chanceuse ou pas spécialement, Zita?
Je peux dire que je suis chanceuse parce que par rapport à d'autres amis, ça ne se passe pas comme ça.
C'est-à-dire?
Les maris n'aiment pas les aider et elles sont là, elles ont recours à des domestiques qui les volent, qui leur prennent le mari. Après, il y a des petites histoires un peu.
Et alors, comment expliquez-vous qu'avec votre mari, ça c'est finalement ça semble assez simple, c'est quelque chose où vous êtes mis d'accord avant d'avoir des enfants, il y avait une sorte de contrat tacite entre vous?
Oui, on s'est mis d'accord et puis je vois que moi mais j'apporte mon participation dans le foyer, si je perds mon travail, on perd tout. Donc on a parlé, on a discuté.
Et
on s'est mis d'accord.
Zita, vous avez un salaire supérieur à celui de votre mari ou inférieur?
Inférieur.
Mais néanmoins, votre salaire est important financièrement. Votre salaire compte beaucoup dans la marge du foyer.
Oui, ça compte.
Alors, si vous aviez un conseil à donner aux voisines qui nous écoutent et qui peut-être se désespèrent parce qu'elles sont diplômées, qu'elles pourraient avoir un emploi plus intéressant, avoir un meilleur poste dans la hiérarchie de leur entreprise, que leur diriez-vous?
D'abord, la soumission, c'est pas parce que tu travailles qu'un bon salaire que tu dois être au-dessus de ton mari. Il faut mettre la balle à terre, vous comprenez, vous discutez de tout. Il pose le problème, tu mets le problème sur le tapis et puis vous discutez calmement, tu l'amènes à la raison parce que c'est pas tous les hommes qui le font. Mais avec un peu de talent, des petits soins, il va comprendre.
Merci Zita pour ce coup de téléphone chez 7 milliards de voisins, bravo. On n'a pas souvent des voisines qui nous téléphonent. On est en ligne maintenant alors avec une journaliste du Journal des Femmes. Bonjour Solange Rigon.
Bonjour.
Vous venez de publier une enquête sur la grossesse et le travail, je devrais plutôt dire sur le retour au travail après son congé maternité. C'est le virage ultra délicat pour les femmes que vous avez interrogées dans l'enquête?
Oui, tout à fait. 44% des femmes de 25 à 49 ans considèrent que leur grossesse a ralenti leur évolution professionnelle. Donc c'est ce qu'on a constaté dans notre enquête réalisée avec la société Envie de Fraise. Et aujourd'hui, donc une femme sur deux, vous rendez compte, ça fait quand même beaucoup, considère que c'est un frein à leur carrière. Ça se voit par exemple dans leur augmentation pendant qu'elles sont enceintes. Donc en entreprise, elles sont 31%, donc soit près d'une sur trois, à dire ne pas avoir été augmentées, contrairement à leurs collègues. Donc ça, c'est du ressenti. Concernant leur travail, elles sont 23% à considérer que leur travail a été injustement critiqué pendant cette période, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elles sont aussi 25% à dire qu'elles n'ont pas obtenu la promotion qu'on leur avait promis. Ensuite, donc, il y a le retour au travail. Et dans la maternité en général, elles sont près d'une femme sur deux, donc 47%, à estimer ne pas avoir été augmentées en raison de leur maternité. Et c'est un chiffre qui est très important, surtout chez les CSP+. Ça atteint 53%. Et surtout aussi chez les 35-49 ans. C'est la moitié d'entre elles.
Alors, restez en ligne avec nous, Solange Rigon. Claire Léost, là, ça coïncide avec les témoignages que vous avez recueillis sur le salaire, où on n'est pas là forcément, on s'absente plusieurs mois pour la maternité, et donc au moment des discussions salariales, notamment des primes, etc., les femmes se font léser.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un moment critique parce que, alors, en fait, il y a deux moments critiques. Il y a la grossesse, donc avant la naissance, et il y a le congé maternité après la grossesse. La grossesse, le problème, c'est que souvent les femmes d'elles-mêmes ont tendance à se mettre en retrait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont enceintes, elles vont penser qu'elles sont moins capables de travailler. Enfin, ça se fait insidieusement, mais je pense qu'il faut répéter que la grossesse c'est pas une maladie, que si on est en forme, on peut travailler, on peut continuer à travailler. Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui ne sont même pas encore enceintes, mais qui viennent me voir en disant ah, je sais pas si je peux accepter cette promotion parce que tu comprends, d'ici deux ans, je vais peut-être faire un enfant. Mmh. Donc elles ont même pas encore le conjoint parfois.
Donc là, c'est pas le regard de la société, ni même des supérieurs hiérarchiques ou des hommes.
Nous-mêmes, les femmes, qui nous mettons des barrières et qui nous mettons quelque part en retrait, ce qui fait que forcément, on va être...
C'est quand même bien relayé par les collègues et par la société en général. Par contre, c'est vrai que c'est important de déculpabiliser les femmes et de leur dire qu'elles ont le droit de revendiquer d'être payées comme il faut, comme les autres, quand elles font un travail.
Il y a une fille qui raconte que, dans votre livre, Claire Yost, qu'elle a travaillé jusqu'à quelques jours avant d'accoucher parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt de rester chez elle, en gros. Tout le monde la traite de folle, en gros.
Oui. En fait, à la fin,
son gynécologue qui dit qu'elle fait ce qu'elle, elle fait ce qu'elle veut. Hein.
En fait, à la fin, elle finit par ne plus venir au boulot, non pas parce qu'elle est fatiguée, mais parce qu'elle en peut plus d'entendre ses collègues lui dire que c'est un monstre, qu'elle est en train de mettre en danger la santé de son enfant. En fait, dès que vous êtes enceinte, le monde entier a un point de vue sur votre grossesse, alors que c'est quand même la chose la plus intime qui soit, et que normalement vous
êtes vécu différemment d'une femme à l'autre, etc.
Tout à fait.
Mais le problème, c'est que ces choses-là rejaillissent, y compris sur les femmes qui sont plus enceintes ou qui l'ont pas été ou qui sont. Enfin, je crois que cet a priori là où on s'occupe de la grossesse des femmes, du fait qu'on les renvoie à cette image de mère, ça rejaillit sur toutes les femmes, qu'elles soient ou non mères, même après la ménopause, on va continuer à avoir des idées comme ça sur les femmes et des discriminations sur les salaires.
Solange Rigon, dans votre enquête, alors on voit bien que donc les femmes, les pourcentages très importants de femmes disent que clairement elles sont freinées dans leur carrière, qu'elles perdent des mois voire des années dans leur avancement, qu'elles perdent en salaire, mais surtout aussi le fait même qu'elles deviennent mères, il y a tout un tas de jugements sur ce choix-là aussi de la part de leur hiérarchie. Il y a des mots qui circulent qu'elles citent.
Oui, effectivement, on a retenu à peu près 600 témoignages que nous avons recueillis dans le cadre de cette enquête. Une femme nous dit par exemple « Il y avait un contrat tacite de ne pas être enceinte durant ma période de travail, dixit mon patron. Il a qualifié ma grossesse comme un luxe et un non-respect de mes collègues. » Donc vous voyez, on a des termes assez forts.
Une autre personne par exemple, c'est un luxe, mais d'autant plus peut-être en période de crise économique où tout s'est resserré, les cycles du business, le fait qu'il y ait moins de personnes pour effectuer des tâches.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça se voit également dans une autre donnée de l'enquête. 36% donc des Françaises de 25 à 49 ans estiment qu'elles n'ont pas retrouvé l'intégralité de leurs fonctions qu'elles occupaient donc avant de devenir mères. Donc, c'est vrai que lors de leur départ en congé maternité, souvent, il y a un remplacement qui se fait en interne. Et après, c'est la question de retrouver sa place. Donc, comme tout se resserre, vous voyez, c'est maillé, en fait. Hein.
Mais pourtant, les femmes de retour d'un congé maternité dans l'ensemble des pays européens sont largement protégées quand même par le droit du travail, et ça ne se ressent pas tant que ça dans l'enquête et dans les témoignages.
Elles le sont effectivement. C'est une étude qui est basée sur des ressentis de femmes. Hein, donc ça déjà,
c'est
pas bien. Voilà, ce sont des ressentis. Mais par exemple, donc 36% des femmes, comme je vous disais, pensent qu'elles n'ont pas retrouvé l'intégralité de leurs responsabilités. Et sur cette question-là, donc nous avions interviewé Christine Joanneau, qui dirige le département protection sociale et travail, donc travail et emploi auprès du défenseur des droits. Donc elle me disait, rapport à l'enquête, que lorsque les femmes partent en congé maternité, le retour vraiment pose problème. Et d'un autre côté, c'est la question de l'organisation autour du congé maternité. Donc un accompagnement
de garde,
devrait se faire, un problème de garde.
Ouais.
Et donc ça, il y a le problème personnel qui, ça finalement, est à gérer par la femme elle-même. Bon, après, bien qu'on puisse
ensuite,
avoir une réflexion
société
en général.
Autour des enfants,
ensuite,
les femmes françaises se plaignent beaucoup de l'insuffisance des modes de garde pour les enfants.
Tout à fait. Mais Ceci dit, ça c'est une réflexion qu'il faut avoir dans la société en général. Là, la question de l'entreprise elle-même, c'est plutôt une question, je dirais, managériale. Nous avions interviewé Aline Crépin, donc qui est directrice responsable, donc qui est directrice, pardonnez-moi, de la responsabilité sociale de l'entreprise, donc pour Randstad France, et qui nous disait que il y a une question de formation du manager, qui n'est pas forcément là. Le manager devrait, en amont de la grossesse, enfin en amont du départ en congé maternité, prendre cette question en compte. Et en aval également, de façon à ce que la femme puisse retrouver sa place. Il y a aussi peut-être des attentes de la femme en question dans l'entreprise qui ne sont pas vraiment écoutées lorsqu'elle revient. Et effectivement, donc ça revient à ce que disait Claire Léost, on réfléchit à leur place. Merci. Parfois, on peut décider de ne pas leur confier des projets en pensant qu'elles vont plutôt aller terminer plus tôt, aller chercher leurs enfants. Voilà.
Merci beaucoup Solange Rigaud, vous journaliste au Journal des Femmes, donc pour cette enquête sur la grossesse et le travail, le retour au travail après le congé maternité. Réaction que vous inspire cette enquête, ce que disent les femmes finalement, bien qu'elles soient protégées en termes de droit du travail.
Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur les critères de promotion, c'est-à-dire qu'on prend ce genre de choses en compte quand il s'agit des femmes, mais quand il s'agit d'un homme qui devient père, au contraire, ça va être valorisant pour sa carrière, c'est signe qu'il est stabilisé, que voilà, et c'est vrai que les critères là pour les femmes et pour les hommes sont pas les mêmes en termes de carrière et de promotion.
Ouais. Claire Léost, il y a une des femmes que vous avez interviewées, dont vous avez raconté le parcours, qui dit pour un manager, avoir plein de photos de ses enfants sur son bureau, c'est très très valorisé. D'ailleurs, plus on a de photos de ses enfants sur son bureau, moins on s'en occupe.
Tout à fait. C'est vrai que d'ailleurs, il y a une corrélation positive entre le nombre d'enfants chez un homme et le salaire. C'est-à-dire qu'un un homme qui devient père va être augmenté, alors qu'une femme qui devient mère, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué.
33 1 84 22 71 71. C'est le numéro de téléphone. On vous prend tout de suite, les voisines, dans quelques secondes.
7 milliards de voisins. Nous avons maintenant une LUCAM. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Nous sommes en ligne avec Nicole qui nous appelle du Togo, de Lomé. Bonjour Nicole.
Bonjour Emmanuel.
Nicole, vous êtes à l'antenne. Vous avez dit au standard que vous avez un gros job, je crois, et vous êtes assez inquiète pour l'avenir, assez désespérée de votre situation de mère de famille et en même temps de femme cadre.
Oui, en gros, c'est ça. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est compliqué d'être une femme diplômée en entreprise, surtout en Afrique. Surtout où la mentalité est très axée sur l'homme et son pouvoir. Donc, en fait, là, moi, j'ai des rêves plein la tête. Je me prépare même à m'inscrire à une école de commerce. Mais tout le monde me dit que plutôt que de me marier et de faire des enfants, je suis là en passé à faire encore des études qui paieront même pas.
Ah oui. Ah oui, alors donc vous n'êtes pas encore mère de famille, hein. Vous faites des études supérieures.
Non, j'ai pas encore d'enfants, mais je suis fiancée. Et mon fiancé, lui, par contre, il m'encourage à poursuivre mes rêves, à poursuivre mes ambitions, mais c'est mon entourage, ma famille et tout ça qui me disent non, c'est pas le moment, c'est déjà tard, tu es déjà en âge de faire des enfants, donc tu peux pas concilier les deux.
Vous avez quel âge, Nicole?
Mais malheureusement, j'ai 30 ans. Mais les ambitions sont là, et donc du coup, je fais face à un blocage psychologique moi-même. Alors je me demande, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire? Et c'est une question pour la dame qui a écrit un livre sur les femmes de la HEC.
Mais alors, donc, vos ambitions, quand vous dites, Nicole, j'ai des rêves plein la tête, quels sont ces rêves?
Alors moi, je veux retourner à l'école et faire un MBA. Et carrément, c'est-à-dire qu'un MBA, je ne peux pas le faire au Togo ici, donc je dois laisser ma famille, je dois laisser mon fiancé et partir le faire à l'extérieur. Donc c'est des sacrifices.
Ah oui, là c'est un vrai dilemme.
Et donc voilà, donc mon entourage dit, c'est pas la peine de faire ce sacrifice-là. Parce que de toute façon, à ton retour, on ne te le reconnaîtra pas parce que tu as une femme.
Oui, on ne reconnaîtra pas la valeur de votre diplôme et vous ne trouverez pas de sous-entendu, vous ne trouverez pas de job à la valeur de ce MBA.
Exactement. Et entre-temps, peut-être que j'aurais perdu la chance de construire une famille entre-temps. C'est ça la mentalité. Donc du coup, quand on évolue dans cet environnement-là, on est bloqué psychologiquement.
Eh ben oui. Claire Léost,
moi je pense qu'on peut tout faire, hein, vraiment. Je pense qu'il ne faut renoncer à rien, donc il faut ni renoncer à sa carrière, ni renoncer à faire des enfants, à fonder un foyer. Simplement, il y a un certain nombre de pièges qui nous attendent, nous les femmes, et dans lesquels il faut pas tomber. Mais je pense qu'il faut pas partir du postulat qu'on va renoncer soit à faire son MBA, soit à avoir des enfants.
Mais là, la situation qui se pose, on a l'impression que c'est ou l'un ou l'autre. Hein.
Mais en même temps, de ce que j'ai compris, cette jeune femme, elle a quand même un conjoint déjà qui est le bon conjoint, puisque qui la pousse à faire des choses. Et ça, on a vu que c'était la clé. Donc moi, si elle a des rêves plein la tête, il faut absolument suivre ses rêves. Et je pense qu'elle elle est encore jeune et qu'elle peut faire son MBA et faire des enfants.
Nicole, votre conjoint, lui, il est d'accord pour que vous partiez à l'étranger faire un MBA et attendre un petit peu pour avoir
d'accord.
Des
enfants. Oui, bah oui, alors. Il est d'accord. Hein? Il dit un MBA à l'étranger, ça fait un an, je t'attendrai et tout ça.
Un an. Bon, bah
mais
alors.
Mais c'est compliqué.
Ben non, mais ce qui compte, c'est votre vie à deux. Oui, mais là, ce qui compte, ce que vous allez bâtir, c'est pas avec votre famille, c'est avec votre conjoint, hein, l'avenir.
Il faut suivre son intuition, c'est très important. Ne pas écouter sa famille, ses profs. Il y a beaucoup de gens qui vont tout faire pour vous dissuader de croire en vos rêves, mais moi, je pense qu'il faut suivre son intuition.
Nicole,
j'ai une autre question pour la dame qui a écrit le livre.
Oui.
Pour les dames pour les filles qui ont fait HEC. Je voulais lui demander, par rapport à son feeling à elle, est-ce que au finish, ces femmes, elles ont rentabilisé les diplômes qu'elles ont eus, ce potentiel qu'elles ont eu? Est-ce qu'elles ont pu rentabiliser ça?
Oui, je pense.
Est-ce que ça en vaut la peine de faire autant de sacrifices?
Alors, ça en vaut la peine si on est maligne, si on n'est pas naïve et si on ne tombe pas dans un certain nombre de pièges. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, pour décrire tous les pièges dans lesquels on tombait, c'est-à-dire le fait de ne pas négocier son premier poste, de ne pas choisir le bon conjoint, de se mettre en retrait au moment de la maternité. Enfin, en fait, tout ce qui nous guette, si on n'y prend pas garde. Mais je pense que si on bâtit une vraie stratégie, si on est maligne, on peut tout à fait s'en sortir et largement rentabiliser son diplôme, bien sûr.
On peut dire en tout cas que les femmes qui ont des diplômes s'en sortent mieux quand elles n'en ont pas, en tout cas dans la société.
Nicole,
actuelle.
On vous souhaite bon courage. Il y a d'autres voisines qui veulent téléphoner, qui veulent prendre la parole à l'antenne. Et on est très contents justement que les voisines nous appellent. Vous nous appelez 331 84 22 71 71. Merci Nicole pour votre appel. Solange nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Solange.
Allô, bonjour.
Vous êtes à l'antenne Solange, nous vous écoutons.
Oui. Bonjour, donc moi je suis architecte urbaniste, de même que mon mari. Mm-hmm. Donc je travaille avec lui justement dans le même bureau d'études.
Oui.
Et je peux vous dire que pour les tâches ménagères, pour ce qui est de s'occuper des enfants, je suis la seule responsable, on va dire. C'est vrai que de temps en temps, je peux compter sur lui pour amener les enfants à l'école, aller les chercher, mais bon, prioritairement, c'est de mon devoir de le faire. Et en Afrique, en tout cas, c'est pas à la femme de sacrifier, de mettre en avant sa carrière, sa vie professionnelle au détriment de sa vie familiale.
Mais vous, par exemple, Solange, vous aimeriez prendre plus de place dans l'agence, être davantage d'égal à égal avec votre mari en tant qu'architecte urbaniste?
Oui, bien sûr, moi. Comme le disait Nicole, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, mais je peux pas les réaliser, surtout dans un bureau d'architecture où il y a des contraintes professionnelles, il y a des horaires, des fois qui sont très décalés, mais je peux pas m'engager sur certains dossiers parce que je sais que je ne pourrai pas être disponible à 100%.
Oui, parce que souvent il faut travailler le soir pour rendre des projets, hein, c'est ça.
Voilà, tout à fait.
Oui, c'est le point clé, en fait.
Claire Léost, le problème des horaires, c'est un problème qui revient beaucoup hein, dans les témoignages.
Oui, tout à fait. C'est vrai que, alors, notamment en France, il y a une culture du présentéisme qui fait que c'est important de rester tard le soir pour discuter avec le chef, pour se montrer. Et à partir de 18h, il n'y a plus aucune femme parce que les femmes se dépêchent pour rentrer et donc elles sont pas du tout de cette culture. Mais je pense que ce témoignage montre bien que on peut pas réussir une carrière si on assume en plus seul les tâches ménagères et les tâches liées aux enfants. C'est impossible. Donc
même en France, les tâches ménagères sont quand même très majoritairement assumées par les femmes.
Même si on a un peu progressé.
Très
très peu. Un quart d'heure.
Un quart d'heure par jour, les femmes ont gagné, c'est ça.
Oui.
Mais il faut négocier avec son conjoint, c'est pas une fatalité.
Voilà, c'est ça.
Il y a aucune raison que ce soit...
On peut être partenaire avec son conjoint.
Alors négocier,
les choses avancent.
Bah, par exemple, un soir c'est toi, un soir c'est moi.
Oui, absolument, les tâches ménagères,
garde alternée, c'est ça.
Tout aller chercher les enfants chacun son tour, c'est important.
Oui, alors il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils font beaucoup parce qu'ils emmènent les enfants à l'école. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée en fait de ce que sont les tâches ménagères.
Et ça, c'est zéro sacrifice en fait, parce que c'est sur le chemin quand on va au bureau. Hein, c'est ça.
Mais je sais pas, il faut arrêter de faire les lessives, arrêter de faire la vaisselle tant que le conjoint n'a pas pris sa part. Parce qu'il y a aucune raison de pas se rebeller contre ça. Nous, on n'est pas naturellement faite pour faire la lessive.
Solange, néanmoins, vous êtes quand même pas mal aidée en Afrique. Hein, une femme qui travaille.
Non. Ah non, ça dépend des réalités, hein. Parce qu'au Burkina, ici, c'est pas évident de trouver du personnel. On croit qu'en Afrique, c'est simple, mais c'est pas aussi simple qu'on le croit.
Oui, de trouver de quoi se faire aider, mais de façon fiable, hein, avec des gens fiables, voilà, pour s'occuper de vos enfants. Bonne chance, Solange. On accueille un voisin, on veut pas faire de discrimination, un voisin, 33-1-84-22-71-71. Christophe nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, Christophe.
Bonjour, les 7 milliards de voisins.
Christophe, vous étiez banquier, je crois.
Bon. Je voulais raconter ma petite histoire parce que, voilà, je suis marié depuis 4 ans avec ma femme, disons, on s'est rencontrés dans le milieu professionnel. Et puis, voilà, il y a eu un mouvement dans la hiérarchie, j'ai perdu mon emploi. Et puis, nous avons eu des enfants super magnifiques, des très belles filles. Et puis, bon... Moi, comme j'ai une main verte, j'ai toujours aimé l'agro-industriel, je me suis reconverti. Ça veut dire j'ai acheté une ferme et je me suis installé dans la ferme depuis le mois de mai de l'année passée, disons. Et depuis ce moment-là, je ne suis plus avec ma femme, ça veut dire dans la même maison, je lui avais laissé le choix. Soit tu viens chez moi, soit tu vas dans ta famille ou dans ma famille, comme ça je ne vais pas te laisser seul avec les enfants ou avec la nounou, c'est pas intéressant. C'est mieux que tu sois dans un cadre familial pour que tu puisses respirer avec des enfants en bas âge. Et puis voilà, donc pour aller un peu plus vite, depuis ce moment-là, j'ai comme une sensation de chantage. J'arrive pas à voir mes enfants quand j'ai envie de les voir. Et là, son horaire qui est un peu compliqué, dimanche, samedi. Moi, quand je viens à Kinshasa, ça veut dire que j'habite plus à Kinshasa. Quand j'arrive dans le centre-ville de Kinshasa, je passe la nuit chez mes parents qui ont un appartement au centre-ville.
Ce que vous voulez dire, c'est que la carrière de votre femme, finalement, vous coûte assez cher affectivement pour vous. C'est assez dur à gérer pour vous.
Effectivement, c'est ça. Oui, elle est devenue d'abord insupportable. Je lui dis, voilà, emmène-moi les enfants, je suis chez les parents, je suis arrivé vendredi, je pars lundi, elle veut pas. Elle me met une certaine pression, une certaine tension. Là, je sais pas ce que je dois faire. Je me dis, bon, est-ce que c'est bien d'avoir la femme bien qualifiée pour travailler? Mais en fait, je crois que les femmes, soit elles travaillent bien, soit ce sont des bonnes épouses. Les femmes qui ont le profil pour diriger ne sont pas souvent des bonnes épouses, en tout cas. Et c'est pour ça que la plupart, même, celles que moi je connais, leur mariage ne tient pas longtemps. Donc j'essaie un peu de demander conseil aussi auprès de vous, parce que je vois qu'il y a des spécialistes là-dedans.
Mais votre témoignage est intéressant, parce que vous avez tout à fait laissé le choix donc à votre épouse, etc. Et puis finalement, là, vous décrivez une situation qui vous rend relativement malheureux, mais vous ne sembliez pas avoir d'idées préconçues au départ. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Christophe, Claire Léost?
Alors c'est vrai que moi, ce que j'ai constaté, c'est que les femmes qui réussissent et qui ont des postes à haute responsabilité, souvent sont mariées avec des hommes qui soit eux-mêmes sont au foyer, donc c'est un peu des femmes au foyer à l'envers, soit sont artistes ou dans des jobs d'indépendants ou beaucoup de temps, mais finalement des couples où on arrive à deux à faire une carrière avec des horaires importants, des responsabilités importantes, ça je l'ai pas vu. Il y a un moment où forcément, on l'a dit, il y en a un des deux qui doit se sacrifier, entre guillemets, décrocher un peu, et donc à 90% c'est quand même la femme, mais parfois ça arrive que ce soit l'autre, mais c'est vrai que c'est très compliqué de trouver un équilibre quand on est deux et qu'on a des ambitions de carrière.
Monique Meuron,
Sauf si chacun travaille un peu moins. Mais c'est un autre
problème. Alors, ceci dit, tout ça n'est que sur un temps donné. Les enfants ne sont pas petits éternellement, Dieu merci. Donc là aussi, il peut y avoir des parenthèses temporaires. Et puis ensuite,
oui, mais alors ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'à partir de 45 ans, effectivement, on est plus disponible pour l'entreprise parce qu'on a fait ses enfants qui sont grands. Puisque la moyenne d'âge du premier enfant, c'est à peu près 30 ans. Sauf qu'à partir de 45 ans, c'est justement le moment où dans l'entreprise, on vous explique qu'on n'a plus besoin de vous, que vous commencez à être trop vieille, trop chère.
Sur les problèmes de critères, de promotion, en fait.
Bon, mais les solutions sont très compliquées. Merci en tout cas, Christophe, pour ce témoignage. Claire Léost, vous publiez Le rêve brisé des Working Girls. Comment éviter les pièges? Alors ça, c'est plutôt pour que les femmes réussissent. Hein. Édité chez Fayard. Il y aura peut-être un livre pour les hommes la prochaine fois. Monique Meuron, vous publiez avec Margaret Maruani Un siècle de travail des femmes en France aux éditions La Découverte. Merci à vous tous, les voisins, les voisines, surtout pour vos témoignages. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission Vieillir en Afrique. Quelles conditions de vie? Quel regard sur les vieux? À demain, les voisins et les voisines. We'll be right back.